Écosystème, Florence Farion.
Avoir le regard clair et la démarche alerte, telle est une des recommandations que notre invité a prises au contact de ceux qu'il a rencontrés il y a près de 40 ans. Il avait 18 ans, le bac en poche, et pour le remercier, sa sœur l'a emmené découvrir le Kenya. Dès lors, sa vie entière en a été influencée. Le Kenya était son pays, les Maasai seraient sa nouvelle famille. Il a découvert un jumeau de cœur, il a appris d'autres valeurs et force est de constater qu'elles l'ont transformé. Faites vos valises, préparez-vous pour un voyage haut en couleur. Il paraîtrait que nous avons des choses à apprendre des Maasai. Voilà le résumé très bref de ce qui vous attend. Pour le détail haut en couleur et dépaysant, c'est maintenant. Bonjour et soyez les bienvenus. Notre émission chaque samedi parle des liens et nous avons une heure pour évoquer ce si particulier que vous avez noué avec ce peuple Maasai. Bonjour Xavier Perron.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre avant votre départ de Suisse puisque vous êtes venu ici il y a quelques jours présenter au Salon Mieux Vivre de Fribourg une conférence, votre expérience de Maasai blanc, un long parcours initiatique au milieu de ces femmes, de ces hommes avec qui, a priori, nous, occidentaux, on n'a pas grand-chose en commun. Vous souvenez-vous de la toute première impression, vous, le Breton, quand vous les avez rencontrés?
Je crois que vous l'avez dit vous-même. Donc, ce que je ressentais en les regardant, donc avoir le regard clair et la démarche alerte, effectivement, leur démarche toute particulière, toute légère, de cette envie de montrer la liberté qui les habite.
Ils marchent comment? Comme sur coussin d'air, comme
oui,
si on a l'impression qu'ils ne touchent pas le sol.
Oui. Et puis cette sûreté, ils n'ont peur de rien, quoi, en fait.
Alors, à vous lire, j'ai retenu quelques différences flagrantes. On va y revenir dans le détail. Le sourire. Vous me faites oui de la tête.
Oui.
Le sourire.
Ah, le sourire, c'est fondamental. Il rit tout le temps. Il rit absolument. Ils appellent ça un chipai, la joie pure, qui est vraiment, pour eux, l'expression la plus pure de l'amour.
Et le nomadisme?
Alors, le nomadisme, bien sûr, ils disent « seul l'œil qui voyage est intelligent ». Ça me correspondait également très très bien.
Alors, votre livre, votre dernier livre sur votre vie avec les Maasai est paru aux éditions Jouvence, « Les 9 leçons du guerrier Maasai ». C'est un livre qui retrace donc votre apprentissage de quelques décennies que vous avez traversées en leur compagnie. Alors, des voyages réguliers, on va dire, parce que vous êtes quand même basé en France et vous avez fait des allers-retours pour vivre avec eux. La plus longue période, c'était quoi? 3 ans?
3 ans, le premier séjour, c'était pour mon doctorat d'État à la Sorbonne.
De votre histoire personnelle, de ces expériences traversées, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut tirer des recettes, j'aime pas ce mot, mais des clés universelles?
Oui, bien sûr. J'ai pu reconstituer quelle était leur spiritualité. Spiritualité, naturellement, en Afrique, le continent des ténèbres, tel qu'on a pu le décrire, vous savez, depuis la colonisation, eh bien je m'inscris en faux, puisque j'ai pu effectivement prouver qu'il existe bel et bien une spiritualité. Il en existe bien d'autres, certainement, mais en tout cas, moi, je l'ai découvert chez les Maasai, une spiritualité universelle, avec donc des clés qui peuvent effectivement nous être très utiles, parce que leur définition de la spiritualité, c'est pas de différence entre le dire et le faire. Nous sommes très forts pour les discours et eux le mettent en application. C'est ça être sacré, c'est vraiment mettre en application. C'est ce que j'ai essayé moi dans ma propre vie de le faire.
Malgré les fortes différences culturelles évidemment et de monde, on est dans deux univers qui n'ont rien à voir avec la même chose.
A priori, mais vous savez, il y a toutes les barrières que l'histoire nous met dans la tête, qui fait que nous sommes extérieurs à l'instant, nous ne vivons pas l'instant, alors que les Maasai vivent l'instant, l'ici et maintenant, ils l'appellent Tenakata. Et donc, eux sont dans la construction de l'être. Il faut 30 ans pour être une femme ou un homme. Ce n'est pas rien. Moi, j'ai passé ces 30 années à essayer de mettre en application. Aujourd'hui, je suis devenu, comme mon nom l'indique, Perron, ça veut dire transmetteur de la spiritualité chez les Maasai, Ol Perron.
C'est pas vrai.
C'est assez drôle.
Mais votre nom de famille.
Et ça ne s'invente pas. Je n'ai eu que des signes comme ça, que des synchronicités. Donc effectivement, on passe de étudiant, si vous voulez, à professeur. Mais on transmet pas du tout dans une relation de commandement-obéissance. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on incite les jeunes à expérimenter la vie. Les Maasai disent « Oi meningishon kiri nememe », ça veut dire « la chair qui n'est pas douloureuse ne ressent rien, il faut passer par l'expérience ». Et donc, ils sont simplement là, les vénérables sages, qui sont eux-mêmes passés par l'expérience de la vie, ils sont là pour montrer tels qu'ils sont eux-mêmes, ils irradient l'amour, ils irradient la sérénité. Et donc, par leur attitude, simplement, ça donne envie aux jeunes gens aussi d'aller voir ce que c'est, d'aller trouver quel est le trésor qui est en eux et non pas à l'extérieur d'eux-mêmes.
On va revenir évidemment dans la dernière partie sur ces enseignements et sur ces clés que vous avez si fort ressenties. Mais votre roman autobiographique, on peut appeler ça roman autobiographique?
Oui, j'aime bien le terme roman. Tout est vrai dans ce livre, mais j'aime bien le terme roman parce que roman s'adresse à votre âme, à vos émotions. Et c'est ce que je veux toucher l'âme des gens.
Voilà, ça se lit comme un roman et c'est votre histoire. Vous parliez de ces fameuses 30 ans, de ces fameux 30 ans pour parcourir le chemin. Quand vous avez commencé cette route avec eux, vous saviez qu'il vous faudrait si longtemps?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Et d'ailleurs, il y a toujours un grain de sable. Vous savez, moi, c'était ma vie d'aller vivre chez les Maasai depuis l'âge de 6 ans quand même. Et donc, le grain de sable, c'était que j'avais décidé de passer une année à Cambridge, à la Lennox Cook School, qui n'est pas une école de cuisine. Et donc, le matin, j'allais dans cette école de langue et, pour parfaire mon anglais, puis j'allais pour dépouiller les archives coloniales. Je voulais posséder toute la connaissance de telle sorte à arriver là-bas, j'allais dire armé.
Dans l'idée de partir là-bas, chez les Maasai, oui, vous vouliez avant faire vos classes, ben, en fait, être solide.
Oui, déjà, voilà, intellectuellement, voilà. Pour ne plus avoir à justement vivre d'a priori, être dans le concept, etc. Je voulais intégrer tout ça déjà d'abord. Et donc, dans l'école de langue, je suis tombé amoureux d'une jeune femme allemande. Donc, mon objectif d'aller vivre chez les Maasai, ça me nuisait parce que j'étais amoureux. Et donc, la première fois que je vais prendre de thé chez elle, elle louait une chambre dans une belle villa victorienne, je me souviens, au 9 Barton Road. Je suis le 9e dans ma famille, dans ma fratrie. 9, c'est le chiffre sacré des Maasai. Et quand j'ai frappé chez elle, elle s'appelait Claudia, j'ai failli tomber à la renverse parce que derrière elle, il y avait des colliers Maasai sur tous les murs. Elle ne savait même pas elle-même qui étaient les Maasai. Et en fait, elle louait sa chambre au spécialiste mondial des Maasai de l'époque, Richard Waller. Donc, vous imaginez le signe pour moi. Si j'avais eu un doute en étant amoureux, et donc je me dis, je lâche l'affaire, là, non.
Quel lien vous aviez envie de créer avec ces Maasai? Vous êtes parti dans quel état d'esprit? Les observer? Enfin, je sais pas, vous aviez quoi dans la tête?
C'était pas du tout dans cette optique-là, en fait. Certes, j'avais fait des études et j'avais tout mis en œuvre pour avoir des bourses pour pouvoir partir et vivre le plus longtemps possible là-bas. Mais en fait, mon but n'était pas tellement la thèse en elle-même. Mon but, c'était de partager leur vie. C'était ça, mon attente. Et ça, depuis très longtemps.
Oui, parce qu'il y a quelque chose un peu enfin, les cartésiens qui vont entendre votre histoire vont être un tout petit peu désarçonnés. On va dire qu'à l'âge de 6 ans, vous racontez que vous avez failli mourir avec votre petit vélo.
Ben oui.
Vous avez été emporté par les flots,
oui,
en Bretagne.
Absolument.
Et que vous avez eu une sorte de qu'est-ce qu'on va dire, de rêve ou d'apparition, en tout cas. Et clairement, le peuple Maasai était là.
Oui, enfin, en tout cas, suite à cette noyade, cette, on peut dire, expérience de mort imminente, effectivement, j'ai fait un rêve, toujours le même, jusqu'à 14-15 ans. Fait une dizaine de fois.
Mais sans pouvoir les nommer, comment vous avez fait pour faire le rapprochement entre ces images de vos rêves et puis les identifier en disant c'est eux?
C'est plus tard, mais enfin, curieusement, je fais ce rêve donc, où je vole, je suis un aigle noir avec un autre aigle noir. On est au-dessus de cônes étincelants, sans doute la vallée du Rift. Bon. Et ensuite, je me retrouve main dans la main à voler toujours avec un homme noir drapé de rouge et qui me met dans une ronde d'enfants. On se pose sur une plage, donc autour d'une sphère. Il forme une chaîne autour d'une sphère. Voilà le rêve.
Et ça vous a habité pendant des années et des années.
Et oui, ça m'a habité. Et parallèlement, je faisais des lectures. Des écrivains comme Joseph Kessel, évidemment, qui a été fasciné par les Maasai. Le lion, la piste fauve, évidemment aussi Karen Blixen, Out of Africa. Mais aussi Joseph Thomson, qui était le premier Écossais en 1884 à avoir traversé sans encombre, et premier à avoir découvert la spiritualité Maasai. Son livre a été mis d'ailleurs sous la pile, hein, évidemment, puisqu'il allait à l'encontre du mythe que voulait mettre en place la couronne britannique. Non, ça, c'est très intéressant.
Mais on va revenir, oui.
On va y revenir, mais oui. Je lisais ces livres-là, sans avoir fait le rapprochement avec le rêve que je faisais.
Et votre parcours est assez étonnant, parce qu'effectivement, alors, mu par cette volonté de vivre avec, au milieu d'eux, de les comprendre, sans savoir que vous alliez devenir une sorte de médiateur ou en tout cas de
qu'est-ce qu'on va dire transmetteur.
De transmetteur. Mmh. Voilà, ça aussi, ça fait partie. Mais vous avez une carrière professionnelle. Vous avez été directeur de laboratoire en géopolitique, chercheur, maître de conférence à la Sorbonne en anthropologie politique, diplômé. Enfin voilà. Mais malgré tout ça, votre envie d'y retourner a toujours été chevillée au corps. Tout ce que vous avez fait professionnellement avait en filigrane cette envie et ce besoin d'être avec eux, auprès d'eux.
Oui, c'est un appel véritable. C'est-à-dire que j'ai découvert chez eux tellement de choses intimes, tellement de choses intérieures, spirituelles, de joie de vivre aussi, enfin toutes ces valeurs humaines, d'humilité également, et de partage avec l'autre. Enfin, autant de valeurs qui sont un peu en péril, ou en tout cas en redécouverte chez nous. Oui, j'étais totalement fasciné, totalement aspiré par ça. Je savais que j'avais une mission à accomplir, au point que j'irais jusqu'à démissionner de toutes ces fonctions, voilà, de la carrière, etc. Ça n'a pas fait un pli. J'ai vraiment décidé du jour au lendemain, parce que mon corps disait stop d'ailleurs. J'ai toujours été guidé par mon corps. Si ce n'est pas le bien-être, alors c'est que je ne suis plus sur mon chemin. Les Maasai disent, si vous empruntez deux chemins en même temps, vous vous brisez le bassin. Alors j'ai toujours été très vigilant par rapport à ça. Et lorsque j'avais des douleurs, etc., je sais que je suis
pas... C'est pas juste.
C'est pas juste. Et donc, je fais en sorte de rectifier le tir.
Et puis, il y a quelque chose alors, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est un personnage absolument incontournable de votre histoire. Quand vous évoquiez tout à l'heure ces deux aigles qui volaient côte à côte...
Bah c'était incroyable.
Le deuxième aigle, c'était un être formidable que vous avez rencontré à Maasai. Ah bah c'est votre jumeau.
Ah bah c'est mon jumeau, Olmawai. Olmawai Lai. Dit, hein, mon jumeau. Parce que chez les Maasai, en fait, Maasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux, et qui, en fait, reflète leur spiritualité. Spiritualité qui est basée sur l'expérience que toutes choses sont reliées à d'autres pour former des paires d'éléments complémentaires.
Tout fonctionne toujours à deux.
Voilà, une dualité
on
inséparable.
On doit être que sur un chemin, voilà, mais tout fonctionne toujours à deux.
Toujours pour être dans l'équilibre. Voilà, et donc, mon Olmawai, c'est l'homme de mon rêve. C'est l'homme que je découvrirai lorsque je passerai les trois années initiales chez les Maasai, au bout d'un an, qui va m'initier en profondeur à moi-même, en fait. Et il me dira, ça durera 30 ans, au bout des trois années que je vais passer, les premières trois années que je passerai là-bas.
Là, on est dans les années 80.
Les années 80. Il me dira, il me convoquera chez lui à Indupa, au village des Cisales Sauvages. Il me convoquera et il me dira, mais que vois-tu ? On s'était assis aux abords de son village, tout est cercle chez eux. Hein. Leur collier, mais aussi leur village, leur maison, comme une matrice. Et donc, il m'avait dit, qu'est-ce que tu vois alors ? Ben, je dis, ben, je vois ton village. Ils ont un sens de l'humour très développé, donc je me dis, ouais. Là, ils se fichent un peu de moi. Tu ne fais qu'entrevoir. Maintenant, si tu veux vraiment être utile à toi-même, être utile à l'humanité, être utile aux Maasai, alors tu dois mettre en application. C'est maintenant que tu rentres en France, tu vas écrire ta thèse et tu vas mettre en application, ça va durer 30 ans. Et tu rencontreras l'amour au bout de 30 ans, au travers de 9 étapes. Alors, je me dis, oh, alors là, il plaisante sûrement. Alors,
on peut déjouer les prédictions.
Oui. Ah, j'y croyais pas du tout. Je vous avouerai que je n'y croyais pas. Je voulais pas y croire surtout.
Mais c'était long, hein, 30 ans.
30 ans, sans amour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était impossible. Et puis, on verra que si.
Force est de constater qu'il a eu raison. Donc on ne l'a pas encore nommé, il s'appelle Kenny.
Alors il s'appelle Kenny Matampash Ole Meritei. En fait,
il a votre âge.
Il n'a pas d'âge en fait, il n'a pas d'âge.
Voilà. Question bête.
C'est une question, pas du tout. Non mais c'est une question qu'on lui pose, il ne le sait pas lui-même. Parce que durant la colonisation, on l'a comparé à la taille du fusil du soldat qui venait dans son village pour réquisitionner les enfants qui devaient aller à l'école. D'accord. Ceux qui étaient plus petits que le fusil des soldats devaient aller à l'école, étaient pris dans des pensionnats, étaient perdus dans le monde des Blancs. Lui était plus petit que le fusil, donc il est allé en pensionnat et on l'a cru perdu. Il appartient à une grande famille traditionnelle et on l'a cru perdu dans le monde des Blancs à jamais. Il fera de cela une force, justement toujours dans la complémentarité. Tradition, modernité.
Justement, lui, il est parti à l'exception, alors peut-être d'autres. On va parler tout à l'heure, effectivement, de cette vie de Maasai et comment vivent-ils.
Oui, ouais.
Mais lui est parti, hein, quitté, fait de hautes études.
Ah oui, il a été initié en profondeur hein, aussi à la tradition. Et en même temps, il est diplômé de plusieurs universités occidentales.
Donc... Et on s'en fait un porte-parole aujourd'hui des Maasai. Il a des fonctions à l'intérieur de la communauté.
Oui, quand même. D'abord, il est extrêmement reconnu. Enfin, on le considère comme le porte-parole des Maasai du Kenya. Et il a une grosse ONG, en fait, de préservation du pastoralisme. Les Maasai sont des pasteurs nomades. Donc, il a créé cette ONG pour leur venir surtout en aide en période de sécheresse. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Et ils sont l'objet, les Maasai, d'un racket foncier sans précédent. Ils ont été les plus grandes victimes de toute l'histoire de la colonisation britannique. Ça, on ne le sait pas. Ils ont été mis dans une réserve comme les Indiens. Beaucoup de morts lors de ces déplacements de population au sud de Nairobi, dans une zone souvent aride et semi-aride. Et aujourd'hui, avec la privatisation de force de leur pâturage, ben, ils sont en train de tout perdre. C'est un peuple en sursis quand même. C'est pour ça que le temps est venu pour eux d'essaimer leur spiritualité. Et je pense que c'est un peu comme les Tibétains.
Ce qui est étonnant aussi, c'est quand même que, juste pour l'anecdote, et c'est vrai que ça fait sourire, vous avez un petit nom particulier quand vous vous échangez avec Kenny. Vous appelez, ça, je vous laisse le soin de le dire.
Parkitang.
C'est-à-dire ?
Ma vache.
Ben voilà. Ma vache.
En fait, on s'appelle non pas par son prénom, parce que de peur de, si l'on n'est pas bien, de donner de la négativité à l'autre par le simple son de sa voix. C'est incroyable. Ça va jusque-là. Et donc, on s'appelle par des noms neutres ou le nom de l'animal qu'on s'est échangé la première fois. Comme je lui ai donné une génisse la première fois, ben voilà, on s'appelle Parkitang.
Les 9 leçons du guerrier Maasai, Xavier Perron, reste notre invité. On va rester, nous, en Afrique, mais on va quitter le Kenya pour aller du côté du Mali avec l'extrait d'un album qui avait été fait pour une association de jeunes aveugles de Bamako. Et on trouvait à la distribution Osmo Pukchino, Amadou et Mariam, Les Incontournables et M. Et ça s'appelle C'est le bonheur. Et je pense que ça va assez bien avec notre égosystème du jour. À tout de suite.
Si noir, ce serait trop facile de croire à cette histoire. Tu n'es pas si blanc, tu n'es pas si noir. Mon cœur a la même couleur dans ton regard.
Town heart is just where I go, feel it from your head to toe. Love is really all we know. Body to Bamako, 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 body. Yeah, say body to Bamako,
and for justice, and for peace, and for struggle, for the trouble. We just keep chucking, guitar keeps clucking, the melody's stuck in your head like locking, the dread keeps clucking, the system and bucking them down like nothing, and so we unite, Barry to Bamako, universal fight, if you're causing strife in the name of right, you are neither black, you are neither white, kitten on the dusty for philosophers, stay right.
Barry Bamako, Barry Bamako, rencontre le tissage, c'est le bonheur.
Et y'en a marre des rues de Paris. C'est sens interdit, j'ai compris trop de choses, des connaissances interdites. Le froid tire tes orteils, ça klaxonne dans l'oreiller. Les gens se suivent pas les jours ensoleillés. Je suis plus loin que l'espoir, même de l'autre côté. Mes pages ont plus de sens qu'un carrefour, écoutez.
Nous allons vous raconter une histoire. Des rencontres entre des gens pour aider.
Anombala Paris, Wamena Bamako, Bamako.
Vive la solidarité entre tous les peuples.
Chacun de nous vaut un trio. Prix Nobel, Pacifix, discours, c'est du sirop. Tentez de chanter pour changer le monde.
Deuxième partie d'Écosystème avec notre invité Xavier Perron. On a eu un premier aperçu de votre histoire, de votre ressenti, de votre chemin absolument incroyable à travers ces décennies de cohabitation fraternelle. Est-ce que ça vous va, sa cohabitation fraternelle avec les Maasai?
Très bien.
Parlons de qui ils sont. Alors, on a évoqué le Kenya, un peu aussi la Tanzanie, parce que ces Maasai, finalement, sont c'est un peuple migrant, on l'a dit. Ils fonctionnent comment? Par tribu, par groupe? Comment dire?
Alors, en fait, les Maasai sont constitués de 12 iloshons, c'est-à-dire 12 sections territoriales. Les Anglais les appellent tribes, ces sections territoriales. Ouais. Bon, j'aime pas le mot tribu, donc je préfère section territoriale. 12 sections territoriales, chacune de ces sections renferme tous les clans, parce qu'aussi il y a des clans, mais qui ne sont pas fixés géographiquement. L'importance de la section territoriale, c'est que tous les clans sont représentés, de telle sorte à éviter une appropriation privative des terres, justement, par un clan, vous savez, comme beaucoup en Afrique. Les Maasai, c'est l'inclusion et non pas l'exclusion. Toute la société est représentée vraiment à l'unité de base, quoi. Vraiment, c'est incroyable.
Qu'on se représente, pardon Xavier Perron, mais il y a donc un territoire qui leur a été accordé, dévolu, etc. Et à l'intérieur de ce territoire, en fait, ils évoluent sans aucune appartenance territoriale particulière. Ils se débrouillent avec ce bout de terre, non?
Si, c'est-à-dire que voilà, alors initialement, avant que les Anglais n'arrivent, les Maasai possédaient un territoire plus grand que la France, qui correspond d'ailleurs peu ou prou au Kenya. Enfin, vous savez, la vallée du Rift, où il y a les volcans, les hauts plateaux, etc. Et les grands lacs. Donc, les Maasai occupaient tout le couloir sur 1300 km du nord au sud, et 350 km de large. C'est ce territoire que les Anglais ont pris, qui renfermait les meilleurs pâturages du monde à l'époque, donc pour en faire une colonie de peuplement. Quant au Tanganyika, ce qu'on appelle Tanganyika, qui a été, lui, colonisé par les Allemands, qui est devenu la Tanzanie, une fédération entre le Zanzibar et le Tanganyika, là, il n'y a pas eu de colonie de peuplement, donc la situation a été un peu plus préservée en Tanzanie. Donc, ils sont simplement séparés par une frontière internationale qui a été décidé lors du congrès de Berlin en 1885.
Les territoires sont les
droits des peuples à disposer d'eux-mêmes sur ces territoires n'avaient pas grande importance. Et donc les Maasai ont dû subir cette loi-là et effectivement, ça a été très difficile pour eux de s'adapter à cette nouvelle donne puisqu'ils ont besoin de très vastes territoires pour continuer de ne pas faire souffrir la terre-mère. Puisqu'ils pratiquent la transhumance, ils pratiquent la rotation des pâturages, et ce sont des grands écosystèmes intégrés où la faune sauvage et les vaches des Maasai ont toujours migré ensemble, depuis des millénaires.
Donc ils se déplacent?
Ils se déplacent avec les animaux sauvages.
Mais à quelle fréquence?
Selon les saisons.
Village, selon les saisons.
Et ça rejoint leur spiritualité d'ailleurs, puisque c'est une spiritualité qui agit écologiquement, naturellement, puisque pour eux, le soleil apporte de la lumière aux arbres, les arbres apportent des graines aux girafes, aux éléphants et aux oiseaux qui les disséminent sur le sol et la déesse mère, Nkai, envoie du liquide amniotique sur cette terre pour faire germer ces graines. Donc et voilà comment la vie
donc à chaque fois qu'ils se déplacent, en fait, c'est ces fameuses constructions, ces fameux entre guillemets villages ronds qu'ils construisent.
Nkajijik, ouais.
Voilà, que les femmes construisent. Hein. Je crois que les hommes s'occupent du bétail.
Ce sont les femmes qui construisent. Et alors, ce sont des cercles, là aussi. Les maisons, c'est des maisons éphémères, en fait. Hein. Sont des maisons qui sont qui ont certes une fondation avec des poteaux, sont recouvertes de bouse pour imperméabiliser, parce que en période de pluie, si on ne rajoute pas de la bouse de vache, effectivement, on peut être inondé, comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, vous vous posez la question, dois-je sortir?
Est-ce que c'est pire dehors? Est-ce que c'est pire dedans?
Non, mais voilà.
Mais est-ce qu'il y a des règles précises? Quelles sont les règles de société? Parce que finalement, ces vies en groupe, elles sont bien régies par
Bien sûr.
Un chef.
Non, il n'y a pas de chef.
Alors justement.
Alors voilà. Mais oui, mais alors c'est pour ça que c'est très difficile de parler de cela sans parler de spiritualité. Bah oui, parce que c'est une société où chacun est construit et donc chacun est son propre chef. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de chef. Il y a des porte-paroles. Et même ces porte-paroles ont plus de devoirs que de droits. Porte-parole, être porte-parole, c'est finalement arriver, justement par cette construction intérieure, arriver à ne plus avoir à parler et à irradier tellement d'amour que sa simple présence suffit à ce qu'on prenne une bonne décision.
Donc, en cas de conflit, clairement, on appelle les plus silencieux.
oui, pratiquement.
C'est ça,
ça peut être le cas, bien sûr. Et d'ailleurs, on les appelle les plumes légères aussi, qui volent d'avis en avis pour faire des synthèses intelligentes au fur et à mesure que chacun s'est exprimé.
Mais il y a quand même des conflits, donc.
On ne voit pas tellement de conflits.
Oui.
Parce que les Maasai peuvent avoir plusieurs épouses.
Mais les dames peuvent aussi avoir plusieurs hommes, qu'elles ne pourront pas épouser, mais il y a quand même un principe d'égalité.
Et c'est toujours la notion d'équilibre.
C'est
donc
ça.
Les femmes peuvent avoir plusieurs amants. Mais enfin, je parlerai de ça peut-être après.
Oui, des hommes et des femmes, parce qu'il y a des choses à dire.
Je pourrais vous donner quelques anecdotes. Ce que je veux dire, un village est constitué de plusieurs familles. Là aussi, il y a cette notion d'équilibre. Il y a une entrée familiale pour faire rentrer le troupeau le soir ou le faire sortir. Il y a deux poteaux de cette entrée, poteau droit et poteau gauche. Donc la première femme de cet homme va construire sa maison à droite du poteau, la seconde épouse à gauche, poteau gauche, la troisième épouse, poteau droit à nouveau, la quatrième épouse, poteau gauche. Tout est ainsi.
Et vous allez nous faire croire qu'il n'y a pas de jalousie.
Il n'y a pas de conflit. Au contraire, elles s'épaulent. Et effectivement, le fait qu'elles puissent avoir des amants, je trouvais ça assez extraordinaire. Je connais peu de sociétés au monde où il y ait cette tolérance.
Mais vous n'avez pas failli épouser là-bas?
Non, tout s'est fait très facilement. Effectivement, j'ai eu des problèmes avec les femmes au début. Et donc, une des premières fois, on m'avait certes facilement adopté dans une classe d'âge. Et donc, lorsque j'arrivais dans un village, il y avait l'homme qui appartenait à ma classe d'âge qui me laissait sa maison. Et s'il était marié, il me laissait sa femme. Il va dormir dans un autre village. Il me laisse complètement dans l'intimité.
Et ça, il n'y avait pas de livre pour chercher l'info. Personne ne vous avait dit, donc vous improvisez.
Je voyais déjà Libération ou Le Monde, jeune chercheur transpercé de mille lances par un mari jaloux. Et donc la femme qui était magnifique, qui s'appelle Sélénoï d'ailleurs, que j'ai devenue une amie, est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais paralysé. Et donc pendant un an, elle a colporté l'idée que j'étais nul. Elle avait été très déçue que je me refuse. Parce que j'avais réussi à la séduire sans le savoir. Parce que je parlais. J'essayais de pratiquer la langue.
Combien de temps vous avez mis pour vraiment vous acclimater à cette langue et la parler?
Oh, c'est très long, au bout de 3 ans et encore.
Mais c'est une langue orale.
C'est une langue orale, une langue tonale. La signification des mots a une signification est différente selon la prononciation.
Ils sont beaucoup à vouloir en partir aujourd'hui, parce que évidemment qu'en 30, 40 ans maintenant de voyages réguliers, vous les avez vus changer, les Maasai?
Non.
Non?
Oui, changer au plan du fait qu'effectivement ils perdent leur terre. Il y a une prolétarisation, il y a l'alcool, il y a des choses comme ça. C'est pas nié, puisque on les a mis dans un cul-de-sac, en fait. On les a forcés à privatiser leurs terres, donc pour mieux les acheter, mieux les avoir. Et on a mis des faux noms à la place des vrais. Enfin, c'est horrible, un gros racket foncier. Donc, ils se retrouvent sans rien. Et surtout, les pâturages sont remplacés par des serres géantes de fleurs, avec des produits phytosanitaires extrêmement puissants. Et les vaches des Maasai qui approchent très près de ces zones meurt instantanément. Et en plus, on a creusé 300 puits autour de ces serres géantes, 300 puits, qui assèchent la nappe phréatique déjà très basse des Maasai. On va jusqu'à 300 mètres aujourd'hui pour trouver la nappe. Donc c'est une catastrophe, catastrophe écologique. C'est-à-dire qu'on est en train d'épuiser les sols pour d'autres usages. Les Maasai, qui avaient été les gardiens naturels de l'environnement, en 20 ans, 60% de la faune sauvage du Kenya a disparu.
Donc c'est la fin de l'essence même de leur vie.
Mais bien sûr.
Est-ce qu'il y a une volonté quand même de désobéissance, Xavier Perron? Parce qu'au bout d'un moment, on se dit jusqu'à quel point est-ce qu'ils vont rester... D'ailleurs, restent-ils passifs? Et jusqu'à quel point pourront-ils rester?
C'est une très très bonne question. Parce que, bon, moi j'ai été professeur de sciences politiques. Et non, ils ne peuvent pas rentrer dans les cases, c'est pas possible. Un Maasai traditionnel, c'est un peuple de la non-résistance. Pour eux, l'autre est le prolongement de soi-même. C'est une autre version de soi-même, on le respecte avant tout. Ils sont incapables de pouvoir réagir, vraiment. Sauf ceux, et depuis une dizaine d'années, ils ont décidé de mettre le paquet à l'école. De toute façon, l'école est devenue obligatoire, donc ils sont effectivement, ils ont d'excellents résultats à l'école. Et beaucoup de Maasai maintenant sont à Cambridge, Oxford ou Harvard. Beaucoup d'entre eux reviennent au Kenya, deviennent avocats. Et là, ça devient intéressant, puisqu'ils sont notamment en train de faire une action en justice contre la couronne britannique pour faire reconnaître le fait même qu'ils sont les plus grandes victimes de toute l'histoire de la colonisation britannique. Donc c'est en cours.
Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement, ça veut dire que certains, entre guillemets, alors là je vais mettre beaucoup de guillemets, mais s'occidentalisent et,
oui,
et sont
ça.
Obligés en fait de choper nos réflexes pour défendre leur terre.
Ben oui, exactement.
Mais c'est une sorte de réalité compliquée,
oui,
je pense.
Oui, mais il reste Maasai avant tout, il reste Maasai avant tout, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans la revanche, ils ne sont pas du tout dans la provocation. Ils disent « We want to forgive, but we don't forget ». On veut pardonner, mais on n'oublie pas.
Ouais.
On n'oublie pas.
Mais dans ces 9 leçons du guerrier Maasai, il y a quand même ce mot guerrier, Xavier Perron.
Oui, bien sûr.
Alors voilà, en même temps, vous nous dites qu'ils sont pacifiques, ils attendent. Mais pourquoi vous utilisez le mot guerrier qui veut dire exactement le contraire?
Non. Guerrier, pour moi, c'est guerrier de lumière, c'est guerrier pacifique. C'est-à-dire que c'est un peu le samouraï, c'est-à-dire c'est le guerrier intérieur, c'est le guerrier de la construction intérieure. Et effectivement, ils étaient réputés pour être les meilleurs guerriers de toute l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, la très gracieuse majesté les a utilisés dans les nombreux conflits avec la Grande-Bretagne, notamment dans la guerre en Birmanie. Et ils étaient de grande réputation.
Alors, savoir se battre, ça fait partie de ces fameux rites de passage. Vous avez été témoin, vous, il y a encore ces cérémonies, ces rites de passage
qui font... Ah bien sûr, ils sont très puissants. Cela existe toujours, bien sûr. Vous pensez à la chasse au lion, peut-être?
Oui, voilà, par exemple. Alors, ça, c'est des images qu'on a, nous.
Mais oui, oui, oui.
Donc, c'est peu de choses des Maasai. Voilà, par exemple, la chasse au lion, on ne peut pas dire que c'est un sport extrêmement...
On a beaucoup de clichés.
Oui, c'est ça.
Les clichés ont été développés à dessein, justement pour préparer l'opinion publique britannique, pour mettre les Maasai dans une réserve et prendre leur terre.
Donc c'est plus facile de tuer son chien quand on dit qu'il a la rage. Donc ils étaient des méchants, donc on peut les mettre de côté.
C'était des barbares à civiliser.
Voilà.
Voilà, c'était l'image. Des bêtes de proie magnifiques mais dangereuses. Stanley, quand il va retrouver Livingstone, vous savez, le missionnaire au Tanganyika, il se présente ensuite à la Royal Geographic Society et dit « S'il en est parmi vous ce soir qui ambitionne de devenir des martyrs, alors je puis leur dire, ils seront plus vite que partout ailleurs dans ma longue liste de voyages en pays Maasai. » Le cliché, il est là. Alors pour la chasse au lion, il faut savoir que les jeunes moranes, les guerriers, entre guillemets, pour leur initiation, effectivement, ils doivent aller à la chasse aux lions, aux lions mâles. Ce sont des lions qui sont déjà condamnés par leur société de lions. Ce sont des vieux lions qui ont été écartés par des jeunes. Donc, ils vont mourir. C'est à cela que l'on s'attaque. Mais qui reste extrêmement dangereux, d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont grièvement blessés, évidemment, lors de cette chasse aux lions. Le Maasai ne chasse pas, etc. Donc,
vous dites pas de viande ou très peu. En tout cas, ils boivent sang d'animal. Voilà, ils ont une technique pour prélever du sang d'animal.
Oui, mais c'est à la saison sèche, effectivement, en période de sécheresse, quand le lait vient à manquer. Le lait, c'est quand même leur nourriture de base. Ils savent prélever un tout petit peu de sang. Déjà, la vache est affaiblie, donc ils prélèvent un petit peu.
Mais comment on fait, Xavier Perron, pour essayer de garder un regard, entre guillemets, bienveillant, l'occidental que vous êtes, par exemple, face à la pratique de l'excision, qui est quelque chose qui existe encore, ou détrompez-moi.
Ah oui, tout à fait, voilà. c'est le grain de sable.
Voilà,
effectivement, je reste...
Parce que quand on parle de tout ça, ça heurte, ça, nous.
Évidemment que ça heurte. Évidemment, mais c'est normal. Moi, j'ai fait avec.
Comment
j'ai vu beaucoup d'ONG occidentales ou asiatiques, beaucoup de sectes protestantes venir déraciner les femmes, les obliger à porter des vêtements occidentaux, etc. Les mettre de force dans des pensionnats. Bref, il y a cette pratique de l'excision. Ça ne peut venir que de l'intérieur de la société. Arrêter brutalement les choses, ça peut venir que des Maasai eux-mêmes. C'est en cours. Kenny fait un gros travail de conscientisation des siens. La femme a une place prépondérante chez les Maasai. Donc on l'appelle Ankitok, c'est-à-dire l'être le plus précieux, le plus important de la société.
Et même la spiritualité est féminine.
Et la spiritualité est féminine, complètement. C'est le féminin sacré par excellence. Mais ça fait partie, pour moi, je vois ça comme le grain de sable. Quelque chose de... Voilà,
Et de difficilement compréhensible, encore une fois, avec notre regard.
C'est difficilement compréhensible. Et eux-mêmes ne le savent pas, d'ailleurs. C'est une pratique qui vient vraisemblablement d'Égypte, mais on n'en sait pas plus. C'est très répandu en Afrique, malheureusement.
Spiritualité, il en sera question dans la troisième partie, Xavier Perron, puisque nous n'avons pas encore abordé ces 9 leçons du guerrier Maasai.
Ah.
Et elles sont là,
ah oui.
Sur mes petites feuilles. On écoute Got a Girl, Did We Leave Too Fast, et puis on revient juste après.
We'll be right back.
La troisième partie d'Ecosystem pour parler encore des Maasai. Vous avez attaché sur vos ceintures. Nous sommes toujours au Kenya. Kenya, Tanzanie. Voilà. Mais vous êtes plutôt côté Kenya, Xavier.
Oui, mais on passe la frontière. On ne demande pas les papiers là-bas.
Bon. Quels sont les enseignements? Alors, c'est 9 leçons du guerrier Maasai, votre livre paru aux éditions Jouvent. Je le disais, écrit sous forme de roman, de récit, où l'on découvre à travers des étapes comment vous avez évolué, grandi. Vous êtes transformé, totalement transformé, ou vous êtes révélé à vous-même? Que diriez-vous?
Oui, transformé au sens où je me suis vraiment trouvé moi-même, et tel que je suis, je pense, en harmonie et heureux de vivre avec un chipaï, la joie. Quoi. Donc oui, je me sens en paix avec moi-même.
Vous avez eu droit à des rites de passage, vous? On les évoquait tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui vous ont demandé d'extraordinaire?
Non, simplement...
Comment vous attestez? On vous a testé d'ailleurs?
On m'a testé beaucoup, on m'a testé énormément. Je parlais des femmes. Elle se bidonnait dès qu'elle me voyait. Parce que l'idée était colportée que j'étais nul. Donc, mais elles ont beaucoup d'humour. Tout ça, c'était dans avec beaucoup d'humour. Mais quand même, pendant un an, c'était long. Et j'ai été testé surtout le fait que pendant une année complète, une année, j'ai compté, j'avais noirci plein de carnets. Ils m'avaient raconté que des histoires fausses. Voilà, c'était un test absolu. Voilà, et là, ils ont commencé. On a commencé vraiment à bien se connaître.
Je rebondis sur le titre qu'on a écouté, « Did we live too fast ?» Est-ce qu'ils savent, eux, la vie que nous menons? À part Kenny, qui vous suit aujourd'hui et qui vient, qui a fait des études ici.
Oui,
et
Kenny.
Kenny est un peu une exception, mais est-ce qu'ils savent la vie qu'on mène?
Non, s'ils savaient.
Alors justement.
Non, oui. Non. Là, c'est vraiment... tout est fait dans la lenteur, dans la douceur, la tendresse, et la bienveillance.
Dans les yeux de Kenny, qui lui est le Maasai qui vous accompagne, votre fameux jumeau, comment nous voit-il, lui?
Alors, c'est intéressant, puisque je trouve que l'anthropologie réciproque, c'est toujours passionnant. Oui. Donc, venant des gens d'un peu de la croisée des chemins, qui disent qui nous, l'Occident, qui n'avons jamais eu quelqu'un en face de nous, qui nous disent qui nous sommes, nous, qui avons colonisé le monde, c'est très intéressant. Donc, il nous voit, par exemple, il raconte toujours l'anecdote, quand il est la première fois qu'il prend le métro à Londres, il croit se tromper de rame, il croit aller à des funérailles nationales. Parce que tellement les gens se font la gueule.
Ah, c'est extraordinaire.
Et lui essayait de sourire aux gens, on lui détournait le regard. Et il a changé de rame. Il dit, ça doit être des funérailles. Donc parce que pour lui, et pour moi qui ai vécu là-bas, quand on rencontre quelqu'un dans un bus, par exemple, ou dans
des têtes d'enterrement, donc c'est vraiment ça, il l'a pris au pied de la lettre. On fait tous des têtes d'enterrement.
C'est ça. Et là-bas, c'est l'inverse, puisqu'on demande, on est tellement heureux de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et on va lui demander des nouvelles. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu as des vaches? Il fait beau chez toi? Etc. Mais enfin, on s'intéresse.
Et lui qui nous connaît un peu, est-ce qu'il arrive à analyser le pourquoi, effectivement, nous faisons cette
tête? Oui, il analyse très bien.
Alors, qu'est-ce qu'il dit de notre gros malheur?
Si, il analyse très très bien. Il dit qu'on n'est penché que d'un côté.
Ah! Le gauche ou le droit,
mais en tout cas...
On n'est penché que d'un côté. Oui. Ce qui veut dire alors?
Ce qui veut dire qu'on est du côté du mental. On a un mental hypertrophié. Et donc, pour être équilibré, il faut accepter aussi le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est l'esprit, l'âme, c'est quoi? Les émotions, c'est plein de choses. Et donc, on est coupé, selon lui, de notre sensibilité. Or, pour être dans un mariage heureux, il faut que la sensibilité et l'amour soient très, très liés l'un à l'autre. Donc, il pense que c'est ça. On est coupé de notre sensibilité depuis notre plus jeune âge et qu'on passe d'une petite boîte à une autre. On vit en séparation. Alors que chez les Maasai, on est d'abord l'univers et le prolongement de soi, de même que l'autre est le prolongement de soi. Il n'y a pas de séparation.
Il y a des rites de passage, mais il n'y a pas de cassure.
Il n'y a pas de cassure du tout. Et on est dans l'unité. D'abord, pour lui, il faut être centré. Il faut avoir un centre autour duquel on peut mobiliser toute son énergie. Ce que font les Maasai. Ils ont une grande cérémonie qui s'appelle la plantation, qui dure 6 mois, et où on réduit les cercles jusqu'à ce que ça devienne un point central. On plante un olivier sauvage dans ce cercle, qui est le rappel du grand tout, et aussi qui rappelle que chacun a un centre, et donc centre au niveau du chakra du cœur à peu près. Et donc ce centre, c'est là où on sait quelle est notre destinée, quel est notre chemin. Il faut le suivre. Ça, c'est au bout d'une dizaine d'années d'initiation déjà. C'est ça qui nous manque à nous. Nous, on est dispersés selon lui. Et on est un peu des morts vivants à cause de ça, puisque pour qu'un être soit vivant, il faut qu'il ait un point central, ça c'est en biologie, qui agrège tous les éléments qui le composent. Donc si on n'est pas tourné autour de notre point central, que devenons-nous ? Nous flottons. Nous devenons des chauves-souris, selon lui. Ni tradition, ni Occident. On est complètement...
On est entre deux. Mais je me demandais si... On avait alors cette capacité, je ne sais pas, peut-être qu'on a... Est-ce qu'on l'a perdue ? Voilà. Ma question, Xavier Perron, c'est est-ce qu'on
oui,
a perdu
je
ça ?
Je pense, moi qui ai étudié quand même pas
justement.
Mal l'anthropologie,
voilà.
La science politique, etc.
Nous, occidentaux, qu'est-ce qu'on en a fait,
moi,
tout ça ?
Je pense qu'on a eu des grands philosophes au niveau de la Grèce antique, parce qu'on parle de bien-être et de bonheur. On ne parle que de ça aujourd'hui. Eh bien, pour cela... Il n'y a qu'une seule chose, disait Épicure, il faut accepter l'autre pan de la vie, l'autre pan qui est fait de désagréments, de tristesse, dans une même journée. Il faut les accepter. Si on arrive à accepter cela, les aspects un petit peu négatifs, qu'on appellerait négatifs, ben ça fait partie de la vie, justement. Et en acceptant, ça se dissout beaucoup plus facilement, on est heureux. Les Maasai, c'est ça. La fameuse
Mais ça
paire.
Fait longtemps, Épicure. Hein
Épicure, ça fait longtemps.
Ça fait bien longtemps.
Mais justement, on vient de faire une tournée de conférences avec Kenny Matampache. Et c'était extraordinaire. C'était le mois dernier. Donc nous avons parcouru la France entière. Et on parlait de ça ensemble. On disait que ça venait de René Descartes. Vous savez, le « je pense, donc je suis ». C'est à partir de là qu'on a construit le paradigme de la pensée moderne. C'est-à-dire la séparation entre le corps et l'esprit. Que notre corps est une machine. Qu'on fonctionne
au service de notre tête.
Mais pour les Maasai, on ne peut pas se débrouiller seul. Pour eux, la spiritualité, c'est parler de la vie, et la vie, c'est le partage avec l'autre.
Les leçons,
voilà.
On va essayer d'y venir,
oui.
Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va essayer de manière très
Je peux
brève.
Synthétiser, si vous voulez.
Alors, première leçon, avoir la force d'être heureux.
Ça, c'est très très important. Si on n'est pas heureux, on ne peut pas franchir d'autres étapes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un impératif d'être joyeux. C'est le résultat d'un comportement, un changement d'attitude. Et je ne peux que recommander à ne plus être dans la médisance, ne plus critiquer l'autre. Pour les Maasai, c'est épouvantable. Ça envoie des mauvaises ondes, parce que l'autre est vraiment le prolongement de soi.
Donc ressasser, dire du mal de l'autre,
ça empêche d'être heureux.
Ça empêche d'être heureux.
Voilà. Donc il faut être vraiment toujours dans la pensée positive. Et quand ils ont une mauvaise nouvelle à annoncer, ils l'enserrent...
Il l'encadre avec deux bonnes nouvelles.
Entre deux bonnes nouvelles. Voilà.
Ouais. Deuxième leçon.
Deuxième leçon.
Avoir le courage d'accepter les difficultés.
Voilà, le courage. Alors, il l'appelle Osina Kishon. La souffrance est un don.
Parce que ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est pour ça.
Non, mais accepter les difficultés, c'est ce que je disais du grain de sable. Ça teste notre foi, tout simplement.
Troisième leçon, devant l'évidence, dire oui à la réussite. Ça, c'est fastoche. Hein.
Oui
ou non, à mon accord.
Non, oui et non, parce que lors de ma soutenance de thèse à la Sorbonne, je ne voulais pas y aller. Je me disais, de toute façon, personne ne lira ma thèse, ça n'intéresse personne, c'est un travail en profondeur, mais je ne vais pas changer le monde, pour autant. Donc, voilà. Et Kenny m'avait dit, de toute façon, c'est là, tu dois l'accepter. Si tu n'acceptes pas d'y aller, si tu n'acceptes pas la vie. Voilà, il faut dire oui, c'est déjà fait, donc... Après, c'est le mental qui invente des choses. Voilà.
Leçon numéro 4, faire l'expérience de ce qui est.
C'est-à-dire l'ici et maintenant, et être dans l'instant présent.
Leçon numéro 5, apprendre à dire non.
Oui.
Alors, tout à l'heure, on disait oui, puis maintenant, on dit non.
Mais c'est encore la dualité. C'est toujours ça. Voilà, et donc, c'est ce que j'ai fait, par exemple, lorsque je me souviens que j'habitais l'île de la Réunion à l'époque, j'étais pas heureux. Donc il fallait que je dise non, c'était plus utile. Voilà, j'avais fait l'expérience d'être enseignant-chercheur, il fallait vraiment que je démissionne. Et dire non, à un moment donné, c'est vital.
Leçon numéro 6, vaincre ses peurs en recherchant le bonheur.
Ah ça c'est fondamental. Engolu enkito. Donc c'est vraiment période de difficulté, justement, arriver à se laisser guider par cette force.
Septième leçon, s'enraciner à sa terre. On y revient, elle est proche de la précédente. Leçon numéro 8, s'éveiller à la force de l'amour.
À la force de l'amour. Donc, il l'appelle Enyolata. Enyolata est très proche de l'Enchipai qu'on a évoqué. La joie, l'amour et la grande force.
Et leçon numéro 9, suivre son intuition et remercier justement Enkai.
Oui, toujours dans la gratitude. Les Maasai remercient sans cesse. à chaque instant, on peut dire, ils disent Naï, Haché, Haché, Naï, merci, Oma Déesse. Voilà, c'est des choses qui se pratiquent. Les Maasai pratiquent au quotidien. En fait, leur spiritualité, ce n'est rien d'autre que pas de différence entre le dire et le faire, c'est le quotidien.
Mais est-ce que c'est plus facile dans le dénuement ? Puisqu'ils ne possèdent rien ou quasiment rien. Oui. Est-ce que c'est plus facile, justement, quand on est dans ce dénuement ?
Ben oui, la pauvreté est richesse des peuples. Mais je pense que c'est un enseignement particulièrement important au moment où on est quand même dans les turbulences d'un monde matérialiste. Et je pense effectivement qu'il faut réussir à se dépouiller suffisamment. Comme les devins indiens, hein, pareil, faire que ça se voit dans notre regard.
Mais la question, c'est quand même, petit sourire quand même avant de se quitter, quand votre voiture tombe en panne, que votre banquier fait une erreur sur votre compte, que vous avez une fuite de toit, que vos voisins font du bruit jusqu'à 5 heures du matin, vous réussissez à rester dans les 9 règles de vie ?
Votre question est excellente, puisque effectivement, on se dit...
Parce que ça interpelle toujours, mais comment est-ce que dans un quotidien ici, bien sûr que sur place c'est facile, vous êtes dans un univers qui vous permet de le vivre.
Bien évidemment.
Et tout est à l'unisson. Oui, ici, on est loin de ça.
Bah, d'ailleurs, je fais un voyage à la fin de l'année pour justement retrouver ce sentiment en pays Maasai. Je pense que moi, je le mets en application ici et maintenant. Donc, j'ai une famille, hein, j'ai 4 enfants, donc, et ma compagne, l'amour que j'ai trouvé donc, après les 30 ans.
Après les, oui.
Ah oui, Alexandra.
Bah oui, on va donner la chute quand même. C'est qu'après 30 ans, finalement, il avait raison.
Sans dire trop. Non, je pense qu'il est fondamental de se changer soi-même. Donc, c'est des clés tout à fait efficaces, faciles à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de concept, il n'y a pas de dogme. Et je trouve ça sensationnel.
Et
commencez
vous,
petit.
Vous réussissez toujours à avoir la démarche légère et le regard clair ?
Ah oui, je trouve. Et puis surtout la joie de vivre, un chipaille, parce que les lois de l'attraction prennent alors le relais.
Merci Xavier Perron. Votre livre est paru aux éditions Jouvence et on met sur notre site, sur la page d'EgoSystème via le site rts.ch. Votre site et puis les références du livre. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Haché.
David Diop a écrit dans Coup de Pilon ceci. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail. Le travail de l'esclavage. L'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce dans toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à zébreux rouges qui dit oui au fouet sur la route de mes vies? Alors gravement une voix me répondit: fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits à peu, la mère saveur de la liberté. Afrique, Abkas, fils de nègre, répond ceci à David Diop. Afrique, mon Afrique, celle de ma mère, celle que me décrivent les cantes de ma grand-mère. Afrique noire, toi qui réchauffes mon cœur, me rends fier d'avoir cette couleur épaisse. Afrique, celle que je vois dans mes rêves, continent originel, sanctuaire de mes pères. Afrique, mon paradis sur cette terre, mais un Éden gâché par la misère et la guerre. Afrique, est-ce toi ce continent courbé qui croule sous la dette et les régimes militaires? Afrique, sous le soleil de midi, j'ai vu ta silhouette de reine courbée par le feu. La chicotte coloniale fait-elle encore son effet? Au blanc d'hier ont succédé des nègres au cœur d'acier. Les dictateurs poussent comme les champignons l'été, asservissant tes fils comme autant des négriers. Afrique, j'ai vu tes enfants armés jusque dans, et beaucoup d'autres gisant dans leur sang. Sur tes champs répandus s'épanouissait la vie. Au rythme des saisons, les hommes étaient heureux, les dames de la joie chantaient des airs de liberté. Afrique, demande à ton ciel bleu, il te dira nos peines, l'hiver qui converge tous nos yeux. Nos regards soucieux, interrogatifs, guettant attentif le moindre signe des aïeux. Alors une voix grave me répondit: fils impétueux,
Le tam-tam pleure et le tam-tam rit. Ce soir, un homme est mort, mais non loin de là. De la pénombre d'une case est né un enfant. Et avec lui, l'espoir de toute une nation. Ah. Sèche tes larmes, l'Afrique repousse, l'Afrique repousse, l'Afrique repousse, l'Afrique repousse, l'Afrique repousse. Afghanistan plus de neige, l'Afrique.
C'était ACFAS avec Afrique pour terminer cette émission. La semaine prochaine, nous aurons deux invités autour des violences domestiques et des liens si compliqués entre les partenaires de ces histoires d'amour qui font mal. Deux invités qui viendront en écho à un congrès national sur ce thème qui se déroulera le 20 novembre à Berne. Et puis un livre, Violences domestiques, prise en charge et prévention, aux éditions des presses polytechniques et universitaires romandes. Ça, ce sera la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe du web. Consultez les prévisions, etc. Et n'oubliez pas d'aller poser les questions à nos prochains invités.